La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Nous sommes le 16 juin 2025, je m'appelle Lou Fréchet et je suis votre hôte pour aujourd'hui. Les résultats Parcoursup et monmaster.gouv ont été distribués lundi 2 juin et avec eux, beaucoup de stress et d'anxiété. Pour une majorité d'étudiants, c'est un moment très flou. Voici mon conseil de grande sœur. La formation que vous choisirez ne vous définit pas. Ne basez pas vos valeurs en fonction des résultats. À 18 ans, on a l'impression que si notre avenir professionnel n'est pas tout tracé, notre vie ne sera pas réussie. C'est là qu'on se trompe. Il n'y aura jamais de chemin tracé, jamais de réponse à vos questions, jamais de « parce que ». Oui, c'est effrayant, et voir son entourage trouver sa voie l'est encore plus. Mais tout le monde finit par douter, parce que douter nous permet de trouver, de prendre le temps, de s'écouter. Votre avenir n'est pas une formation. Votre avenir, c'est les rencontres, c'est les tests, c'est se promener le soir avec des personnes que vous venez de connaître, c'est avoir sa première expérience professionnelle dans une entreprise qui vous plaît pas, puis comprendre que ce que vous voulez vraiment, c'est après. Toutes ces expériences, vous allez les vivre. Peu importe la formation, peu importe si vous continuez les études. À 21 ans, on a l'impression que tout ce qu'on a appris à 18 ans n'a jamais existé. Que la vie est passée sans que votre chemin tout tracé se déroule. Mais la vie n'est toujours pas définie par une formation. Votre valeur n'est pas une formation, n'est pas un métier, n'est pas un supérieur qui se prend pour quelqu'un de supérieur. Je sais que c'est effrayant de travailler dur et de ne pas voir les résultats, mais vous apprendrez que vous ne travaillez pas pour un résultat, vous travaillez par plaisir. De nombreuses fois, vous êtes sûrement demandé « Est-ce que je peux travailler par plaisir ?» J'ai la réponse, oui. Et c'est une formation. Ce n'est pas une formation sur mon master ou Parcoursup qui vous l'apportera, forcément. Travailler par plaisir, c'est travailler parce que votre travail a un impact sur vous, sur les autres et sur votre bien-être. Vous n'êtes pas et ne serez jamais un chiffre sur Internet, un salaire, un rêve qui ne se réalise pas. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître, de faire des tests et de tomber et de vous relever. Je suis ravie de faire cette matinale à vos côtés et j'espère de tout cœur que la programmation vous plaira. Dans cette matinale, Marius et moi recevons Solène Tanguy, présidente de l'association Winslow Santé Publique, pour la grande interview sur l'accord mondial des pandémies proposé par l'Organisation mondiale de la santé. Le Zoom sera avec Pierre, directeur et programmateur du festival Les Aiguilleurs, qui sera aussi interviewé par Marius. Delila vous fera un récap des actualités du jour. La chronique sur l'actualité du jour se fera par Fabien. Et nous finirons avec Gauthier pour sa chronique sur les services civiques.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous sommes avec Marius et Solène Tanguy pour la grande interview. Solène Tanguy, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Un projet d'accord sur les pandémies est en discussion à l'Organisation mondiale de la santé. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Solène Tanguy, présidente de l'association Winslow Santé Publique, qui œuvre pour une meilleure reconnaissance du Covid long et la justice sanitaire. Bonjour et merci d'être avec nous. Avant de revenir sur l'accord mondial et sur les pandémies adoptées par le 20 mai dernier par l'OMS, pouvez-vous nous rappeler le rôle de votre association ainsi que votre poste au sein de celle-ci ?
Oui, Winslow Santé Publique est une association de lutte contre le Covid qui a été créée en 2022, qui se bat pour défendre les personnes touchées par le virus SARS-CoV-2. C'est une association majoritairement composée de personnes vivant avec le Covid long, mais d'autres personnes, souvent handicapées ou malades chroniques, et des scientifiques. On n'est pas une association caritative, hein. On voit dans le Covid avant tout une question politique. Et voilà, donc je suis la cofondatrice et la présidente de l'association.
L'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, est l'agence des Nations unies chargée de coordonner la santé publique au niveau international. Et depuis la pandémie du Covid-19, elle travaille à la mise en place d'un accord mondial sur les pandémies, un texte destiné à améliorer la prévention, la réponse et la coopération entre pays en cas de crise sanitaire. Quelle est votre position ? Quelle position votre organisation a face à cet accord mondial ?
Alors, cet accord, on avait déjà réagi sur le brouillon du texte de la Political Declaration l'année dernière. On avait fait une lettre ouverte avec différentes organisations, associations du monde entier, des scientifiques également, par rapport à ces angles morts. Donc, ce texte qui est censé préparer aux pandémies futures n'incluait pas dans ses réflexions les conséquences à long terme des épidémies virales. Voilà, on a quand même appris là avec le Covid qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne décèdent pas directement du virus, mais qui ont des conséquences à long terme, des effets différés. Mais ça n'est pas du tout évoqué dans l'accord pandémique, n'est pas non plus évoqué les moyens directs de protection, par exemple les masques, par exemple la qualité de l'air, sachant que il y a des chances que la prochaine pandémie soit aéroportée également. Aucune mention de ces éléments de protection-là, ni de la sécurité par rapport à ça, dans des lieux de soins, par exemple. De mon souvenir, c'était surtout des éléments sur la répartition mondiale des vaccins. Mais il n'y avait aucun élément sur ces outils, sur les outils de diagnostic également, donc les tests, etc. Donc, on avait envoyé cette lettre ouverte à des responsables de l'OMS et on n'a pas eu de réponse. On a vu les déclarations de Yannick Neuder, donc le ministre de la Santé français, dire que c'était une avancée dans le cadre One Health. Pour nous, on peut pas imaginer qu'on va agir bien dans le futur quand on agit toujours pas au présent pour les victimes qui sont déjà là. Donc on a des doutes.
Et oui, je vais prendre la relève. Bonjour déjà, Madame Tanguy.
Bonjour.
Comme vous nous l'avez expliqué, on a vu que l'OMS, elle a quand même attribué le statut de maladie au Covid long. Et donc, vous défendez quand même la reconnaissance du Covid long. Et donc, quelle procédure l'Organisation mondiale peut mettre en place pour améliorer le suivi du sujet, selon vous ?
Alors, il faudrait déjà lier le Covid long au Covid. C'est-à-dire que pour l'instant, et on le voit, hein, on voit en France, c'est-à-dire qu'on a des campagnes d'information sur le Covid. On en a eu une cet hiver qui était dramatique en fait, qui était catastrophique parce que des fausses informations étaient transmises sur le Covid, c'est-à-dire que le mode de transmission qui est aéroporté n'était pas cité et au final on passait à lavez-vous les mains en première mesure pour les virus hivernaux, hein, donc ils ont mixé les virus. Le Covid long n'est cité comme conséquence du Covid. Donc, pour éviter qu'il y ait des Covid longs, il faut quand même que les gens sachent comment se protéger du Covid. Et il faut qu'ils sachent que c'est le Covid qui entraîne le Covid long. C'est pour l'instant, on a encore des informations catastrophiques. On n'a pas vraiment de prise en charge digne pour les Covid longs. Donc, les Covid longs sont reconnus en tant que malades, mais dans les faits, ça n'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a ni prévention, ni traitement, ni information pour l'instant.
Et d'accord. Et puisque vous dites qu'il n'y a ni prévention, ni information, est-ce que vous pouvez quand même expliquer ce qu'est le Covid long à nos auditeurs au cas où ils ne savent pas vraiment
oui, bien
ce
sûr.
Que c'est.
Bien sûr. Alors, le Covid long, c'est des symptômes qui persistent suite à l'infection au SARS-CoV-2. Alors, on considère après 3 mois après l'infection, s'il y a des symptômes persistants, qu'on est face à un Covid long. Alors, ça peut être extrêmement varié comme type de symptômes parce que c'est une maladie vasculaire, en fait, donc qui peut toucher tous les systèmes organiques. Donc, autant ça peut être des maux de tête, des difficultés à respirer, des problèmes cardiovasculaires, des malaises post-effort, ça peut être des problèmes cutanés, ça peut être le déclenchement de maladies déjà connues également, des maladies auto-immunes, cardiaques, etc., des caillots sanguins. Donc, il y a vraiment des choses très différentes et les personnes ne vont pas se retrouver forcément avec les mêmes tableaux. Donc, c'est assez difficile à détecter si l'on ne sait pas qu'on a été infecté. Donc ça c'est le premier souci. Récemment en plus les tests PCR ont été déremboursés, hein, sauf passage par un médecin qui le prescrirait. Donc il y a de moins en moins de tests fiables. Donc on se retrouve face à des personnes qui ont des problèmes de santé. Ceux qui ont été contaminés, on va dire entre 2021 et 2023, généralement ils ont réussi à déterminer leur Covid long. Parce qu'ils l'ont relié à l'infection en fait, et ils ont relié leurs problèmes de santé à l'infection. Mais sinon, on n'a pas un symptôme qui va montrer que c'est un Covid long, c'est une maladie multisystémique, voilà, qui passe par trois mécanismes à la persistance virale. C'est le virus qui persiste dans des sites immunitaires privilégiés, la thromboinflammation. Et puis, la dysimmunité, dont auto-immunité, donc pour ceux qui connaissent les maladies auto-immunes. Voilà.
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Et donc, pour revenir un petit peu sur l'accord de l'OMS, quels sont, selon vous, quand même, est-ce qu'il y a des points positifs à travers ce projet? Et du côté négatif, quelles incertitudes planent toujours du côté de votre association?
Alors, on a du mal à voir les côtés positifs parce qu'on a l'impression que ce ne sont que des mots. Souvent, dans ce type de réunion ou d'accord, il y a des choses assez vagues qui sont dites et on a plutôt des promesses sur le fait qu'on répartira mieux, par exemple, les vaccins, mais rien sur de vraiment très précis et rien sur ce qui permettrait de contenir concrètement les morts et les handicaps à venir. On a un peu de mal à croire. On a un peu de mal à croire que ces messages-là soient autre chose qu'une échappatoire. Clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où on ne gère pas la pandémie actuelle. Et on va dire que les accords, alors il y a beaucoup de One Health qui est un principe qui serait très bien, qui est nécessaire, hein, mais c'est utilisé comme un pas de côté, comme une prise de recul et comme une promesse qu'on ferait mieux la prochaine fois, mais en invisibilisant ce qui se passe actuellement. On a un peu de mal à y croire. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Et même pour rebondir là-dessus, de toute façon, il y aura normalement l'évaluation l'année prochaine qui va être faite et on pourra peut-être avoir des résultats plus concrets face à ce qui semble être plus une utopie de votre côté, si j'ai bien compris.
Une évaluation des résultats de l'accord, vous voulez dire?
Oui.
Ah, je ne savais pas.
C'est à l'Assemblée de l'année prochaine que ça va être réalisé.
D'accord.
Et donc, pour continuer, et en toujours en parlant de l'accord, est-ce que vous pensez que tous les pays, qu'ils soient riches, pauvres, nord, sud, ils seront vraiment sur un pied d'égalité avec l'accord mis en place?
Alors là, je ne suis pas assez pointue pour le savoir. Les causes des inégalités, à mon sens, elles sont profondes. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de révolutionnaire sur l'accord à ce niveau-là, pour l'instant, on n'a pas encore été capable de fournir suffisamment de vaccins dans des pays en Afrique, par exemple, actuellement. Donc, voilà. En fait, le problème qu'on a là-dessus, c'est commençons par ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que on a du mal, en effet, à voir une redistribution qui serait révolutionnaire et qui s'opérerait grâce à cet accord, alors que il y a des inégalités immédiates sur les vaccins, par exemple, actuels, qui sont absolument pas réglées pour l'instant.
Merci beaucoup. Nous continuons l'entretien après une courte pause musicale sur Radio Campus Paris et on écoute Orlan avec son titre « La fin du silence ».
Sous la poitrine, rythme rapide comme un excès d'adrénaline quand il nous bride, mais plus jamais. Les ailes en feu, mais j'y retournerai quand même. Comme un pressentiment qu'on ne peut plus cacher, c'est le point du silence qu'on fera brûler. Comme un ressentiment qui ne veut pas passer, c'est la fin du silence.
C'était Orlan avec son titre « La fin du silence ». Vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours avec Marius et Solène Tanguy, présidente de l'association Winslow Santé Publique pour la grande interview de l'accord mondial des pandémies proposé par l'Organisation mondiale de la santé.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Eh bien, nous voici de retour. Bonjour encore, Madame Tanguy.
Bonjour.
Super, tout se passe bien, on nous entend bien.
Oui.
Je voulais revenir sur quelques chiffres. Je crois bien que c'est 20% des acteurs concernés par ce projet de l'OMS, 20% de fournis qui vont être fournis, comment dire, oulala, j'ai un trou de mémoire. 20% de doses de vaccins qui vont être fournies par les acteurs concernés par cet accord de l'OMS, et donc vous n'étiez vraiment pas sûr que tout cela soit bien concrétisable. Qu'en pensez-vous de ce chiffre ?
Eh bien, quand on n'arrive pas à gérer des campagnes de vaccination dans son pays, ce qui est le cas actuellement, par exemple ici, pour le Covid, hein, on a des campagnes catastrophiques, les gens ne viennent pas se faire vacciner pour le Covid et les doses sont jetées en fait, hein, parce que c'est des doses de 6 et il y a parfois une personne qui la prend et les 5 autres sont jetées. On espère, hein, qu'il y ait une redistribution des vaccins, évidemment, enfin, Mais pour l'instant, on est à 5 ans après le début du Covid. Par exemple, en Amérique latine, il n'y a pas assez de vaccins, il n'y a pas de Paxlovid, il n'y a pas d'accès aux PCR ni aux antigéniques.
Oui.
J'ai du mal à imaginer, alors même que la gestion des stocks de vaccins se fait assez mal en France, que ça règle complètement les inégalités d'accès aux outils de prévention. Et aussi, le vaccin n'est pas le seul outil de prévention, et notamment, la vaccination baisse le risque d'avoir le Covid long. Donc, ça le baisse de 27% d'après une étude récente, mais ça ne l'enlève pas. Donc, on est sur des mesures qui vont peut-être réduire les inégalités si elles sont appliquées, mais ça ne va pas régler les inégalités. Enfin, c'est pas révolutionnaire comme accord, à notre sens.
D'accord, merci beaucoup. Et nous avons vu en réponse de l'adoption de l'accord que certains acteurs politiques y voyaient une menace pour la souveraineté du pays. D'où pensez-vous qu'ils tiennent leurs propos et comment les expliqueriez-vous ?
Une menace pour la souveraineté du pays, de quel pays du coup ?
De la France.
Par rapport à la gestion des...
Par rapport au fait que l'accord soit signé, soit adopté par une organisation mondiale. Certains acteurs, alors, notamment de droite.
Si oui. Alors, je pense que c'est peut-être lié à la sphère réinfo-Covid complotiste anti-vax, qui, de façon générale, pense que le Covid est un complot mondial et pour inoculer des vaccins contre leur gré à la population. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ils seront contre. Alors, j'imagine que ça émane de là, mais j'ai pas de certitude.
Oui, d'accord. Mais cela tient son sens, en tout cas. On sait donc que vous n'êtes pas du tout optimiste vis-à-vis de ce projet. Que diriez-vous aux Français de rester vigilants, par exemple ?
Oui, bien sûr. Le Covid, c'est assez compliqué parce que les gens, une fois qu'ils l'ont contracté et s'ils n'ont pas eu de soucis de santé par la suite, ils pensent que c'est bon. Et le souci, c'est que les réinfections, elles augmentent le risque. Elles augmentent le risque d'effets différés du Covid, c'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas finir en réanimation ou décéder du Covid immédiatement, mais vous pouvez avoir des soucis par la suite. Et du coup, c'est pas très intuitif pour les gens. Les personnes se disent « bon ben voilà, je l'ai eu, je suis immunisée ». Mais ça ne fonctionne pas avec le Covid. Le Covid, c'est un virus qui abîme l'immunité et qui ne l'entraîne pas. Donc, au final, plus vous vous infectez, plus vous prenez de risques d'avoir un Covid long ou d'abîmer vos organes. C'est un virus aussi qui peut créer des dommages organiques. Du coup, voilà, même si ça augmente peu à chaque réinfection, ça augmente quand même doucement ce risque. Et c'est un peu un risque silencieux. Et le fait que la pandémie a été décrétée comme finie en 2022, alors que le virus il circule toujours, hein. Le fait qu'il y ait des fausses informations qui circulent, les fausses informations dont je vous parlais sur le fait que le lavage de mains suffit à se protéger. Alors c'est très bien le lavage de mains, hein, pour plein d'autres virus et bactéries, mais c'est pas très utile pour le Covid. Le fait qu'il n'y ait aucune campagne de prévention pour les effets différés du Covid fait que les gens pensent que tout risque a disparu. Et malheureusement, parfois, ils rejoignent nos rangs dans les associations et ils sont un peu déçus qu'on ne les ait pas prévenus. Donc, c'est vrai que l'OMS décide de mieux répartir les vaccins, c'est une très bonne chose, évidemment. Mais en fait, il faudrait quelque chose de bien plus massif, quelque chose de plus courageux aussi. puisque clairement, pour les lieux de soins, je veux dire, tous les ans, l'OMS célèbre la journée de la sécurité sanitaire dans les lieux de soins. Et voilà, on n'entend pas parler du fait qu'il y a des Covid nosocomiaux partout dans les hôpitaux. Et ce sont des Covid qui sont bien plus mortels que les Covid en population générale. Et il n'y a toujours pas de qualité de l'air adéquate, il n'y a toujours pas de masque adéquate. Donc, il est vrai que la vaccination, c'est un outil. C'est un outil de réduction des risques, donc il faut se vacciner, mais il n'est pas suffisant, en fait. Donc, voilà, cette répartition, si elle s'opère, eh ben, c'est bien, mais je pense qu'on pourrait faire mieux déjà par rapport à la gestion des stocks dont je vous parlais. C'est insuffisant. C'est insuffisant. On a en Afrique, genre, je ne sais plus dans quel pays, excusez-moi, mais il y avait eu une étude qui avait dit que les effets différés Covid représentaient non loin de 40% des personnes infectées. Parce qu'en plus, la population a moins de services de santé, donc est en moins meilleure santé. Donc, plus on est déjà malade, plus on risque d'avoir un Covid long. Donc voilà, ça doit être une catastrophe également.
Ah, donc vous pensez bien que voilà, les sénateurs ne font pas assez alors qu'ils en ont les moyens, de ce que j'ai compris. Et si vous aviez un message à adresser justement aux responsables politiques qui ont signé cet accord, que serait-il ?
Ça serait, alors l'OMS à un moment avait menti sur la transmission aéroportée du virus hein, au tout début de la pandémie en disant que c'était une fake news de dire que ça passait par l'air. Ce tweet est toujours là. Ils n'ont jamais fait de mea culpa là-dessus. Et en fait, tant que des fausses informations circulent, tant qu'il n'y a pas de vraie guidance sur cette transmission aéroportée, on aura du mal à régler les soucis posés par le Covid et à préparer les prochaines pandémies. Parce que le plus essentiel, en fait, pour préparer des pandémies, c'est d'être certain que les acteurs transmettent les bonnes informations au public pour que les publics ils aient les moyens de choisir s'ils se protègent, à quel niveau ils se protègent, parce qu'après, c'est un choix personnel, en effet, pour certains, mais qu'au moins, ils aient les bonnes informations. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement contre le Covid long et les réinfections font du mal aux malades. Donc, le meilleur traitement pour le Covid long, pour l'instant, c'est la prévention. Et il y en a zéro, il n'y en a pas. Donc, on est vraiment dans une situation où le problème de base, le problème zéro, c'est l'information. C'est qu'on a soit pas d'information, soit des informations fausses ou faussées. Et il faut commencer par là. Donc, en fait, il faut rétablir les informations, faire son mea culpa là-dessus. Ils l'ont plus ou moins fait, mais de façon assez discrète, en faisant un nouveau guide sur la transmission des virus et en mettant, voilà, en changeant leur guidance par rapport aux gouttelettes. Donc, à l'époque, ils disaient que c'était par gouttelettes. Donc, ça a été changé, mais un petit peu en catimini. Il faut quelque chose d'un peu plus clair. Et que les autorités sanitaires de tous les pays s'en saisissent, corrigent leur guidance. Par exemple, là en France actuellement, pour la transmission du Covid dans les hôpitaux, on est encore en contact gouttelette, alors que c'est aéroporté, 5 ans après, quoi. Donc vraiment, il faut qu'il y ait, il faut commencer par la base, qui est l'information. Donc ça serait déjà quelque chose.
Merci beaucoup pour cet entretien. Nous continuons l'émission avec Delila. À toi de présenter le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Humiliation, choc et colère selon la droite devant la déchéance de la Légion d'honneur pour Nicolas Sarkozy. Chais selon la gauche. Emmanuel Macron avait bien essayé de l'empêcher mais rien n'y a fait. L'ex-président, de par sa condamnation en justice, a logiquement perdu cette distinction. Une première depuis le maréchal Pétain. De là à faire un rapprochement, il n'y a qu'un pas. Des nouvelles de l'équipage du Madeleine. Les 3 dernières personnes encore détenues, dont le journaliste Yanis Mamdi, ont été expulsées en Jordanie aujourd'hui. Ce voilier qui visait à apporter de l'aide humanitaire à Gaza avait été arrêté illégalement en eau internationale internationale le 9 juin par les forces israéliennes, lesquelles continuent d'exercer un blocus et un génocide en Palestine. Un mot également sur la situation qui n'en finit pas de s'intensifier entre Israël et l'Iran après de nouvelles frappes israéliennes sur Téhéran cet après-midi. En France, après deux essais mis en péril par la dissolution et la censure du gouvernement Barnier, Rachida Dati revient à la charge avec son projet de holding, rassemblant sous la même bannière France Télévisions, Radio France et l'INA pour créer France Média. Un projet qui provoque, depuis sa première annonce, des levées de boucliers. En effet, les syndicats, les salariés, les critiques des médias craignent que cette fusion déjà amorcée avec les rapprochements entre France 3 et France Bleu ne vienne fragiliser un service public qui le mettrait à la merci d'une privatisation. Donc le privant ainsi de l'indépendance relative qui lui reste. Le projet de loi qui souhaite une création de cette holding au 1er janvier 2026 sera discuté et examiné à l'Assemblée avant la fin du mois. Enfin, culture, c'est le retour de dragons dans les salles obscures. À moins d'une séance 4DX, vous ne sentirez pas leur flamme vous chatouiller les pieds, mais vous pourrez au moins les contempler dans ce remake en prise de vue réelle du film d'animation de DreamWorks, sorti il y a déjà 15 ans.
Merci beaucoup Delila. Nous continuons l'émission après une courte pause musicale sur Radio Campus Paris et on écoute Heavy Metal Disco Club avec son titre Asphalt. C'était Asphalt avec son titre Heavy Metal Disco Club. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
On est avec Fabien. Je te laisse faire ta chronique actu.
Bonjour. Et ben moi, je vais vous parler d'une actualité qui se passe à Lille. C'est Lille 3000. Donc en devenant capitale européenne de la culture en 2004, donc Lille 2004, Lille et sa région ont profondément modifié l'histoire, l'image de la ville pardon, et de tout un territoire. De cette année d'exception, il nous reste des images fortes, telles que la fête d'ouverture et ses 750 000 visiteurs. Excusez-moi, les mondes parallèles ou les innombrables métamorphoses, mais aussi des traces durables que sont les maisons folies. Lille a souhaité poursuivre cette aventure à travers Lille 3000 pour encore explorer les cultures et les problématiques de notre monde, tout en nous projetant vers la création contemporaine, l'innovation et le futur. En 2025, Le voyage continue avec Fiesta, 7e édition thématique de l'île 3000, capable d'être à la fois un vecteur de l'attractivité de la ville de Lille, de la métropole européenne de Lille et de la région Hauts-de-France. Autour d'un thème fédérateur, la fête donc, cette nouvelle édition est l'occasion de proposer des nouveaux modes de rassemblement qui permettent d'échapper à l'individualisation de la société. Parades, fêtes, banquets, bals ou encore carnaval le seront célébrés. Art dans la ville, expositions, spectacles, théâtre, danse, concerts, événements inédits, projets participatifs, rencontres littéraires, débats et cinéma composeront un programme très varié permettant à chacun des visiteurs, petits et grands, de partager des émotions, être spectateur ou prendre part activement au projet. On va retrouver pour Fiesta les mêmes ingrédients que lors des précédentes éditions. De nombreuses expositions, dont quelques expos phares, des installations artistiques, des spectacles et de nombreux événements auxquels seront associés les habitants de Lille, mais aussi des 95 communes de la métropole européenne de Lille. Comme à chaque édition, la grande parade dans les rues de Lille, le 26 avril, a réuni des centaines de milliers de spectateurs le long d'un vaste défilé mêlant amateurs et professionnels qui se terminera à l'esplanade du Champ de Mars avec un feu d'artifice. Au-delà des grandes éditions thématiques, Lille 3000 a également su saisir l'opportunité de présenter à Lille des expositions d'art contemporain majeures dans un lieu d'exception, le Tripostal. Ces expositions sont autant de rencontres avec l'art contemporain. Elles réunissent les plus grands noms de la scène internationale avec la création émergente, racontent aussi les histoires des collectionneurs invités et nous confrontent aux questionnements et aux révoltes que leur inspirent l'homme et le monde. Deux expositions marqueront particulièrement les esprits. D'abord, Pom Pom Pidou, qui sera présentée au Tripostal. 200 œuvres du Centre Pompidou y seront présentées. L'autre exposition majeure sera présentée au Palais des Beaux-Arts de Lille, intitulée « Fêtes et célébrations flamandes ». Elle rassemblera près d'une centaine de peintures, gravures et dessins portant sur les fêtes flamandes du XVIe et XVIIe siècle. Lille 3000, le voyage continue. Lille 3000 Fiesta, c'est jusqu'au 9 novembre 2025 à Lille, évidemment. Et pour plus d'infos, vous allez sur fiestalille3000.com.
Merci beaucoup Fabien. Nous recevons maintenant Pierre, directeur et programmateur du festival Les Aiguilleurs, qui sera interviewé aussi par Marius pour le Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et rebonjour. Alors pour le Zoom de ce soir, je suis avec Pierre, directeur et programmateur du festival Les Aiguilleurs. Bonjour Pierre.
Salut Marius, enchanté.
Enchanté. Alors, le festival Les Aiguilleurs, c'est le rendez-vous à ne pas manquer cet été. Le temps d'une journée, le samedi 28 juin, une dizaine d'artistes vont faire bouger les rues de Sèvres au rythme de leur musique. Et petite particularité cette année, puisqu'il s'agit des 10 ans du festival. Tout d'abord, Pierre, avant de parler du festival en lui-même, et notamment de sa programmation, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association organisatrice ?
Ouais, complètement. Alors, le festival Les Aiguilleurs, il est organisé par l'association SOUM. C'est une association qui travaille dans les musiques actuelles depuis 25 ans maintenant et qui travaille sur trois pôles autour des musiques actuelles qui sont l'école de musique, donc plutôt tout ce qui va être pédagogie des musiques actuelles, notamment du jouer en groupe et de la pratique collective et du plaisir à jouer aussi, parce que c'est super important. Des studios de répétition qu'on a à l'année, qu'on a ouvert à l'année, donc on accueille beaucoup de groupes en répétition et bientôt en résidence parce que on a un nouveau lieu qui est finalisé, donc on est en train d'emménager dans un nouveau lieu qui nous permettra de faire plus de choses et notamment de la résidence. Et le dernier aspect, ça va être justement tout ce qui va être diffusion, organisation de concerts et le festival Les Aiguilleurs qui existe maintenant depuis 10 ans, qui est vraiment le temps fort de l'association parce que c'est un festival du coup qui se fait en extérieur en partenariat avec la ville de Sèvres et le département des Hauts-de-Seine et où on a la chance de pouvoir programmer, on va dire, des artistes alors toujours de découverte mais de la scène nationale, quelquefois internationale, et de mettre en valeur aussi les projets on va dire de la cuvée sévrienne qu'on accompagne un petit peu à l'année, quoi.
D'accord, merci beaucoup. Bah, étant musicien, je vais peut-être venir un jour.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre festival, Pierre ?
C'était assez logique en fait pour l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait cette association elle s'est créée autour de la répétition au tout début, donc là on parle de l'année 2000, donc c'était il y a un petit bout de temps, mais c'est des groupes en fait du coup assez jeunes qui avaient besoin de studios de répétition et qui avaient aussi besoin de se produire en parallèle, Et c'est là que, du coup, on a réussi à avoir des locaux dans la ville de Sèvres. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est-à-dire que l'idée d'organiser des concerts et d'auto-organiser des concerts par les groupes, c'est très vite formé, en fait. C'est devenu une logique très, très rapide pour les groupes. Et ça a permis, justement, que les groupes travaillent un petit peu ensemble, quoi, que ce soit pas juste chacun dans sa répétition et tout ça, mais plutôt, justement, de s'unir pour pouvoir proposer des concerts. Donc, en fait, le Festival des Aiguilleurs, il est vraiment hérité de ça, de vouloir, justement, proposer des concerts et des événements un petit peu plus gros pour mettre en valeur notamment les projets qui répètent dans nos locaux, mais aussi de la programmation nationale, comme je vous disais, parce que évidemment il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui se font en fait entre les groupes, de groupes qui se connaissent de région parisienne et tout ça, qui font qu'en fait c'est pas mal de monde qui gravite autour de la SLUM et du coup de cette association, et ce qui fait que on a eu la chance, en faisant petit à petit du réseau avec d'autres artistes, de pouvoir justement proposer des artistes qui sont pas forcément juste issus de Sèvres, quoi.
D'accord, et en parlant d'artistes, en ce qui concerne la programmation, il y a du choix pour tous, soul, rock, électro, techno, reggae, et j'en oublie sûrement beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il faut d'une telle diversité dans la programmation des artistes?
C'est tout simplement parce que c'est ce qu'on propose un petit peu à l'année, c'est-à-dire que nous, c'est un peu, ça fait vraiment partie de notre mission de faire des musiques actuelles au sens large. C'est pas forcément un terme d'ailleurs qu'on aime beaucoup, mais l'idée, c'est vraiment justement de travailler plusieurs esthétiques et de pouvoir donner la parole à plusieurs esthétiques sur scène. On n'est pas du tout fermé musicalement, même si quelquefois on aime bien faire des thématiques, mais justement le festival, l'idée, c'est d'avoir quand même une cohérence et un fil conducteur de programmation, mais d'avoir l'idée qu'on puisse passer justement, par exemple, d'un projet qui va être cette année qui est afro-vénézuélien, un projet de rebetiko mélangé avec du reggaeton, de la trap et de la musique électronique, tout autant que des musiques électro, un artiste de reggae qui s'appelle Joe York, qui est incroyable, qui viendra du Royaume-Uni, et c'est de trouver un fil conducteur dans tout ça, mais du coup de pouvoir quand même donner la parole à plusieurs esthétiques, comme je disais, quoi.
En tout cas, hâte d'écouter tout ça. Cette année, est-ce qu'il y a eu des artistes que vous rêviez particulièrement d'accueillir, ou même si vous avez des habitués qui reviennent régulièrement au festival?
On est très content en tout cas de la programmation de cette année, puisque justement au niveau des esthétiques, on est très très large. Par exemple, il y a autant du rock qu'un jeune rappeur qu'on accompagne qui s'appelle Copilote. Il y a de la folk cette année. On a pas mal de musique du monde assez large qui est représentée, et on aime bien faire aussi de la musique électronique jouée par des musiciens en live. Donc ce sera par exemple un projet qui vient de Rennes, Hyper Jacuzzi. C'est le projet Spoin qui est basé en région parisienne, qui fait un live complètement incroyable qui est basé sur de l'improvisation, donc c'est des concerts vraiment à rallonge. Ils vont jouer une heure et demie en clôture. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va proposer, quoi.
Super. Et cette année, on la sait, elle est particulière puisque c'est l'anniversaire du festival Les Aiguilleurs. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial pour souffler les 10 bougies de l'événement?
On a prévu un petit peu des surprises. En fait, on a beaucoup de chance dans ce festival parce qu'on a un public, ce qui est lié aussi à nos activités à l'année, qui est très multigénérationnel, ce qui donne une ambiance assez marrante, très très bienveillante et très sympa. Faut savoir que c'est un festival qui est vraiment complètement associatif, qui est géré principalement par des bénévoles, hein. On a 110 bénévoles sur l'événement, parce que c'est un événement qui aujourd'hui ramène, on va dire, en moyenne entre 3 et 4 000 personnes. Et on a pas mal de surprises, notamment pour le jeune public, parce qu'on les oublie pas, on a quand même beaucoup d'enfants qui viennent sur le festival, qui viennent avec leurs parents, et tout le monde doit être un petit peu content par rapport à ça. Après, il faut laisser un petit peu des surprises, mais on invite un libraire qui proposera justement des ouvrages sur la musique, et souvent en relation avec des études un peu sociologiques. On aura aussi pas mal de surprises, qu'est-ce que je peux vous dire, on aura des masseurs sur le festival, enfin on organise des choses assez, assez marrantes en parallèle des concerts, bien sûr.
Eh bien, c'est super. Vous dites également accorder de l'importance en ce qui concerne le développement durable dans votre festival, alors que ce soit dans le choix du lieu, par exemple, dans sa réalisation. Est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de vos initiatives?
Ouais, complètement. Alors, on considère, nous, qu'on fait notre part, en fait, et que c'est important de faire sa part. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des festivals en France prennent ça vraiment pas à la légère. Donc, ça fait vraiment partie des considérations de tous les organisateurs. Donc, on fait pas beaucoup plus, mais ce qu'on essaie de faire attention, en fait, c'est de travailler aussi avec des producteurs qui sont locaux. Nous, on prend pas du tout de prestataires. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait un peu sur le long terme, et comme je disais tout à l'heure, qui est pas mal lié à l'engagement bénévole. parce que par exemple on gère nous-mêmes les stores de restauration, les buvettes et tout ça, et donc on va travailler par exemple avec des restaurants de la ville, avec un traiteur de la ville, on va travailler avec le brasseur artisanal de la ville, c'est un petit peu tout ça, et puis évidemment on fait attention sur avoir des toilettes plutôt soit au dur, soit des toilettes sèches, tout ce qui va être tri des déchets, éco-cup et tout ça, qui sont maintenant un petit peu des grands classiques, mais qui sont quand même importantes à mettre en place, quoi.
D'accord. Et donc, l'événement est-il ouvert à tous ?
Il est complètement ouvert à tous. Et en fait, on a cette particularité, nous, dans le modèle un petit peu économique du festival, c'est d'être un festival qui est en prix libre. C'est un festival qui a été gratuit de 2015 à 2021 et qui est passé sur le modèle du prix libre depuis 2021. L'idée du prix libre, c'est de sensibiliser le public à ce que c'est l'organisation d'un festival et aussi ce que ça coûte. Mais c'est surtout aussi de garder, on va dire, un accès à la culture pour toutes et tous. Pour nous, c'est très, très important. Et l'idée, c'est aussi d'être un petit peu... de contrebalancer aussi un petit peu ce qui se passe en région parisienne, parce qu'il y a énormément de gros festivals qui sont des gros mastodontes, et en fait c'est pas du tout nous ce qu'on fait, c'est presque pas le même métier, et il se trouve que des festivals en prix libre un petit peu de notre taille aujourd'hui, il y en a plus beaucoup, il y en avait encore pas mal il y a 10 ans, et c'est un modèle qui est très très difficile à défendre, et c'est pour ça que je pense que le public a vraiment sa part aussi à jouer, comme je disais tout à l'heure. Il se trouve qu'aujourd'hui la musique actuelle et notamment les projets émergents comme on fait jouer sur scène, c'est assez difficile de trouver sa place. Donc en fait, la meilleure chose à faire, c'est de venir à ce festival, parce que quand vous venez à ce festival, vous soutenez une association, vous soutenez des artistes et vous soutenez du lien et du partage, quoi. Donc c'est ça qui est super important pour nous, c'est vraiment cet aspect du vivre ensemble, quoi.
D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que, par exemple, dans le futur, on sait maintenant le festival, il dure pendant une journée entière, est-ce que vous envisagez de l'étendre à plusieurs jours ?
Alors c'est une possibilité, c'est toujours une question qu'on s'est posée. Comme je disais, c'est un festival qui est organisé par une association qui fait beaucoup de choses à l'année. Là en plus, on a vraiment une actualité qui est hyper riche, parce qu'on est en train d'ouvrir en fait un nouveau lieu à Sèvres où on pourra faire exactement ce qu'on faisait avant, sauf qu'on pourra aussi agrandir nos activités, notamment avec une salle de concert qu'on va gérer à l'année et qui sera aussi sur un modèle de prix libre, ce qui est un peu unique en Île-de-France. Donc on a tout ce boulot là. Après sur le festival, c'est pas du tout exclu. Justement que le modèle évolue peut-être sur deux jours, un jour, il faudra qu'on voit selon un peu comment ça se passe cette année aussi, mais on est plutôt confiant. On va dire que si ça a duré 10 ans, ça peut encore durer, je sais pas, 20 ans, 30 ans.
Et on l'espère pour vous. Et enfin, pour terminer, est-ce que, en dehors du festival, votre association a d'autres projets à mener ?
Comme je disais, il y a toute l'activité de concert qu'on fait à l'année. Donc l'année prochaine, on va être sur une saison de concert qui sera à peu près sur un rythme d'une à deux fois par mois. On a aussi pas mal d'actions culturelles. En fait, on travaille avec pas mal d'établissements, soit sociaux, soit éducatifs. Ça peut être des crèches, des écoles, ça peut être aussi des centres jeunesse, par exemple. Pas mal de choses. On travaille en réseau aussi. On a la chance d'avoir un réseau de musique actuelle qui est quand même plutôt chouette en Île-de-France. Donc on travaille avec pas mal de salles partenaires. C'est une asso qui vit un petit peu tous les jours, parce qu'il y a aussi de la répétition à l'année, des groupes qu'on accueille en résidence et tout ça. Donc il y a une activité qui est très très riche et qui est déjà très riche. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce nouveau lieu et avec le festival qui prend de l'amplitude, c'est que ça fait que grandir, on va dire, chaque année. Donc on est très content.
D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup Pierre pour votre intervention.
Eh ben merci à toi, merci à vous.
Pas de souci. Je rappelle à nos auditeurs, vous êtes le directeur et programmateur du festival Les Aiguilleurs, qui se tiendra le samedi 28 juin au 111 rue des Bruyères à Sèvres, si je prononce correctement.
Exactement.
D'accord. L'événement est ouvert à tous, en prix libre, et pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site internet www.festivallesaiguilleurs.fr ou suivre le festival sur les réseaux sociaux.
Merci à vous deux pour ce Zoom. On fait maintenant une courte pause musicale sur Radio Campus Paris et on écoute Fortune avec son titre Dead Chic.
There's been patience in the evening when the city makes its call and flew. ourselves to learn. As Venus screams up to my window and the world resumes to turn. Let it be told, ah, I'm being sold for a little more than you owe, than you owe. And in this blessing from the pocket of the cops, she offers fortune, offers meaning to all that we've forgotten. And you unleash this challenge to one street. You move in motion to the freedom of this moonlight offering. Let it be told. Promise to self in what we all believe. Let it be told. I'm being sold for a little more than you owe, than you owe. Let it be told. I'm being sold for a little more.
C'était Fortune avec son titre Dead Chic, programmé au festival Les Aiguilleurs. Gauthier, je te laisse terminer ta chronique sur les. Je te laisse terminer l'émission avec ta chronique sur les fabuleux services civiques.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir. Cette semaine, c'est ma 64e chronique sur ces ondes. On approche de la fin de la saison, ça veut dire que les services civiques qu'on avait à la radio cette année, c'est aujourd'hui leur dernier jour. Et comme le veut la tradition depuis 2 ans, je vais leur offrir une chanson. Ça y est, la fin est proche. Et nous sommes face au dernier rideau.
Elles sont pas
mon
là.
Mon pote.
Y'a personne, elles sont pas là.
Elles sont pas là. Mince, elles sont pas là dans le studio. En régie peut-être. Non, mince. Peut-être qu'elles sont dans le bureau. Est-ce que quelqu'un peut-être allait les chercher? Peut-être qu'elles ont oublié que c'était maintenant ma chronique.
Non, y'a personne dans le bureau.
Peut-être qu'elles savaient juste que c'est pas maintenant. Je les avais prévenues, hein, pourtant. Delia, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, elles ont fini leur service civique et du coup, elles sont chez elles. Bah, c'est con, du coup, j'avais préparé tout un truc. Il y avait plein de gens dans la combine. Tous les bénévoles étaient dans le coup. On avait préparé toute une chorale. Là, ils sont tous cachés sous la table. J'ai réussi à motiver plus de monde que pour l'Assemblée Générale de la radio samedi dernier. Non, mais il y avait tout l'orchestre de Radio France, en plus, qui avait accepté de venir. Bah, bon, vous pouvez partir, du coup, tant pis. Ouais, bah oui, je sais, non. Non, elles sont pas là, c'est bon, vous pouvez y aller. Non, je sais, mais moi aussi, je suis déçu, hein, mais bon. Elles ont tout foutu en l'air, bon bah c'est pas grave, tant pis hein, c'est pas grave, nous on s'est éclatés au moins pendant les répétitions, tous ces beaux souvenirs ne sauraient être gâchés par ces énormes lâcheuses, je ne citerai donc pas leur nom pour ne pas nuire à leur réputation, mais c'est bon, des chippies. Pardon, les mots est très dur, peut-être ont-ils un peu dépassé ma pensée, mais laisser tout seul un stagiaire faire lors de son premier jour 2 interviews, je trouve ça vraiment très très bas. Le pauvre, il a passé la journée seul dans le bureau, sans aucune service civique, abandonné, perdu. C'est terrible, vous le jetez dans un monde de requins, hein, la vie associative c'est pas pour tout le monde, et le petit genou que vous avez trouvé, je suis pas sûr qu'il soit très solide sur ses appuis. Hein. Je lui ai fait le test du marteau, ça lui a tout bonnement brisé les genoux. Alors que j'ai juste mis un petit coup de marteau en caoutchouc, et en plus c'était sur mes phalanges, à moi. Ma théorie, c'est que c'est parce qu'il a pas caché ses mains derrière son dos. C'est pas faute de l'avoir prévenu non plus. Mais bon, que va devenir la matinale sans service civique? Oh putain, Lou?
Coucou, Lou, je suis en service civique.
Je t'avais pas vu, enfin, t'es service civique?
Oui, oui, je suis en service civique.
C'est pas que je sais pas, hein, c'est qu'en fait t'es tellement professionnel que pour moi tu vaux bien plus qu'une service civique. C'est vraiment un rôle qui, même si t'es pas forcément une mauvaise personne, hélas tu t'en sors comme une personne exécrable et ça se vérifie systématiquement.
Mais je suis en service civique.
Tu es service civique?
Oui.
Non mais tu vois, c'est genre... l'exception, voilà, qui confirme la règle. Toi, t'es une super service civique et donc bah c'est super. Toi, t'es une super personne. T'as super bien animé l'émission en plus aujourd'hui. Genre vraiment, c'est génial. Genre, bravo Lou. Tu vas faire, je suis sûr, tu vas avoir une grande carrière. Salut.
Gauthier a terminé sa chronique, j'imagine. Donc c'est la fin de l'émission. C'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Restez connectés pour Pièces détachées à 20h, l'émission qui vous dévoile l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Notre émission sera retrouvée en replay sur le site radiocampusparis.org. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram, la matinale de 19h. Merci Delila pour la réal et le flash info, à Gauthier pour ta chronique, Marius pour les zooms et grandes interviews, ainsi que la coordination. Enfin, merci à nos invités d'aujourd'hui. C'est ma dernière apparition à la radio pour la saison. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux et bravo à toute l'équipe qui entoure cette association. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris.